Vous écoutez RFI, il est 6h30 à Luanda et Paris, 5h30 à Bamako.
RFI Matin.
Tout de suite, c'est le journal de Vincent Dublanche. Bonjour Vincent.
Bonjour Andréane, bonjour tout le monde.
À la une, ce sommet de la SADC pour parler de l'Est de la RDC.
Oui, notamment pour trouver une porte de sortie aux soldats sud-africains et malawites qui sont déployés au nom de la SADC à Goma et aux alentours. Alors que l'Angola, de son côté, confirme que des discussions directes vont avoir lieu à Luanda la semaine prochaine entre gouvernement congolais et M23. On demeure toutefois prudent à Kinshasa. L'Est de la RDC, l'Ukraine, Gaza, la nouvelle donne, Trump au cœur du sommet Afrique du Sud, Union Européenne qui a lieu tout à l'heure au Cap. On va en parler dans deux minutes. On est à Bangui, plongé dans le noir à cause de soucis techniques depuis trois jours. À Niamey et Arlit au Niger où le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique est en visite. Compte rendu d'audience également dans ce journal du procès d'Anivo qui se poursuit au Bénin. Et puis le journal des sports dans 10 minutes et les affiches des quarts de finale de la Ligue européenne des champions de foot qui sont connues. Des délégations de la RDC et du M23 vont se parler directement et négocier la paix dans l'Est congolais et ce à compter de mardi prochain le 18 mars. C'est en tout cas ce qu'affirme la présidence angolaise. Les autorités congolaises disent que leur position officielle n'a pas varié, pas de dialogue direct, mais Kinshasa confirme aussi avoir reçu une invitation à se rendre à Luanda. Prudence donc, une source interne au M23 dit de son côté n'avoir pas encore reçu d'invitation. La situation dans les Kivu, qui sera au menu d'un sommet extraordinaire, est en visioconférence aujourd'hui des chefs d'État de la région d'Afrique australe, la SADC. L'objectif, c'est notamment de clarifier le sort de la force armée régionale déployée dans l'est de la RDC. Pauline Azidi.
Ce rendez-vous fait suite à une réunion de la Troïka de l'organisation régionale le 6 mars dernier qui a émis une série de recommandations qui doivent désormais être validées par les chefs d'État. Le principal enjeu, c'est l'avenir de la force militaire déployée dans le pays, la SAMI-DRC. Cette dernière avait été mise en place pour remplacer les militaires de la région est-africaine, dont Kinshasa réclamait le départ. Mais depuis la prise de Goma par le groupe armé M23-AFC, les soldats de la SADC sont stationnés en attendant une clarification de leur situation. On devrait aller vers un retrait progressif, estime une source congolaise proche du dossier qui ajoute que cette force est désormais encerclée par le Rwanda. Et quelle solution pour son remplacement? L'idée d'une force tampon semble oubliée, estime un analyste. La réponse viendra peut-être d'une réunion attendue depuis plusieurs semaines, celle qui doit réunir les chefs de la diplomatie, de la SADC, mais aussi de la région est-africaine. Elle pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
L'Est de la RDC, Human Rights Watch, s'inquiète fortement de la répression en cours dans les zones contrôlées par l'AFC M23, soutenue par le Rwanda. L'Organisation indépendante de défense des droits humains affirme que le groupe armé a procédé à de nombreuses pressions, arrestations de militants de la société civile et de journalistes. Elle parle de détention arbitraire, de violence et même d'assassinat. Les détails sont à lire sur l'appli RFI. À écouter aussi dans une demi-heure dans le journal international de 6h, temps universel. Elle salue l'initiative, mais demande son report. En France, l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance, espère que le concert de soutien aux enfants de l'Est de la RDC pourra se tenir à une date ultérieure. Ce concert est organisé le 7 avril à Bercy, grande salle multi-événement à Paris. La présence des chanteurs Youssoupha, Gims, d'origine congolaise, et de la béninoise Angélique Kidjo, notamment, ont été confirmées. Mais la date choisie, donc le 7 avril, suscite la polémique des associations de la diaspora rwandaise ou des associations pour la mémoire du génocide des Tutsis de 1994 protestent, car le 7 avril est la journée internationale de commémoration du génocide. La situation dans l'est de la RDC, l'avenir des troupes sud-africaines sur place, l'action des blocs régionaux d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, tout cela va être abordé ce jeudi dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, pour ce sommet Afrique du Sud Union européenne, aux côtés du président Cyril Ramaphosa, le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne. La 8e édition de ce sommet UE-Afrique du Sud, qui aura également pour objectif de relancer, de solidifier l'approche multilatérale des relations internationales face à l'offensive protectionniste et unilatérale des États-Unis dirigée par l'administration Trump. Analyse depuis Johannesburg, Valentin Hugues.
Selon l'Institut africain d'études sur la sécurité, l'Europe peut se positionner comme un contrepoids aux ambitions chinoises et au protectionnisme américain. Sur le plan commercial, l'Afrique du Sud est l'un des principaux partenaires de l'UE. Le sommet a pour objectif de renforcer ses relations dans un contexte où les États-Unis tournent de plus en plus le dos au continent et particulièrement à la nation arc-en-ciel. Pareil pour l'énergie. Au sommet, il sera question de renforcer le partenariat pour une transition juste, un partenariat pour décarboner l'économie sud-africaine encore très dépendante du charbon. Les États-Unis, eux, se sont récemment retirés de cet accord. La situation en Ukraine sera aussi discutée. L'Europe s'unit face à Vladimir Poutine. L'Afrique du Sud, non alignée, peut jouer un rôle de médiateur en tant que membre des BRICS, dont fait partie la Russie. Le sommet abordera aussi la situation en RDC ou encore au Proche-Orient. Là encore, le rôle de l'Afrique du Sud est central, avec la mission régionale de maintien de la paix de la SADC ou la plainte contre Israël pour génocide portée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Un mot du recours au Gabon de l'un des recalés pour la présidentielle. Jean-Rémi Yama s'adresse à la Cour constitutionnelle pour contester le rejet de sa candidature au motif de l'absence d'acte de naissance de son père. À la place, il a retrouvé celui de sa mère et au terme de la loi gabonaise, cela est censé suffire. Extinction des feux en ce moment à Bangui depuis 3 jours, la capitale de la République centrafricaine. Et dans le noir, le soir, et sans congélateur, sans clim ou ventilateur dans la journée. La panne provient de l'une des sous-stations qui alimentent la capitale. L'entreprise publique énergie centrafricaine Enerca est à pied d'œuvre. Les habitants s'impatientent. Reportage Rolf Stevdo Mialeuf.
À peine 19h, les quartiers du 4e arrondissement de Bangui sont plongés dans le noir. Il n'y a pas d'électricité depuis 48 heures dans le secteur. Ce problème a modifié le quotidien de Magloire.
Il n'y a pas de courant et je ne sais plus quoi faire. Chez moi, nous sommes obligés de ranger la télévision, le congélateur et nos téléphones. Nous utilisons les moyens traditionnels comme la lampe tempête, les bougies ou la torche.
Au quartier de Miskine, dans le 5e arrondissement de Bangui, Caroline, une veuve de 50 ans, vend de l'eau glacée pour subvenir aux besoins de sa famille. Avec ce problème d'électricité, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Sans électricité, c'est la mort. Je ne peux pas brancher mon congélateur et c'est difficile de trouver de l'eau courante au robinet. Mon business s'est arrêté. À l'heure actuelle, c'est très compliqué de vivre.
Dans un communiqué publié mardi, la Direction générale de l'énergie centrafricaine Enerca a signalé une panne technique survenue sur l'une de ses installations. Pour constater les faits, le ministre de l'énergie Arthur Bertrand Piri s'est rendu sur place.
La panne ici au niveau de Gobongo est localisée. Les collaborateurs de l'Enerca sont dessus. Ils sont en train de procéder à la réparation. J'ose croire que bientôt on va revenir à l'exploitation normale.
Mais pour l'instant, les techniciens de l'Enerca n'ont pas donné une date précise de la reprise normale de distribution de l'électricité dans la capitale. Rolf Esteve, Domiale, Bangui, RFI.
Au Tchad, notre confrère Olivier Monodji et les 3 autres personnes inculpées dans l'affaire attendent leur première audition sur le fond. Elle pourrait avoir lieu aujourd'hui. Olivier Monodji et les 3 autres personnes sont poursuivies pour intelligence avec une puissance étrangère, atteinte à la sûreté de l'État ou encore complot. Les avocats du directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, qui est également un de nos correspondants à N'Djamena, estime que le dossier du procureur est, je cite, « vide ». Les organisations de la presse locale expliquent pour leur part que les faits présentés, la publication de possibles publi-reportages en lien avec la Russie et le partage d'informations déjà accessibles au public relevaient tout au plus du délit de presse, certainement pas d'incrimination aussi grave et passible de peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. La situation inquiète, notamment Reporters sans frontières. Sadibou Marron est le directeur du bureau Afrique de RSF.
On se rend compte que le parquet a en tout cas véritablement corsé son accusation en donnant des charges très lourdes à l'encontre de ces 3 journalistes. Complot contre l'État, complicité, cela fait très très lourd. Peut-être que le parquet chercherait à faire sortir ces charges-là, disons, du champ de la loi, notamment la loi sur la presse qui met fin aux peines privatives de liberté pour certains délits de presse. Dans tous les cas, on en saura davantage avec la nouvelle audition prévue. Mais il est clair que la place de ces journalistes n'est pas fondamentalement la prison. Nous connaissons très bien la pratique professionnelle d'Olivier Monodji, de son journal Le Pays. Nous pensons qu'Olivier lui-même, il est un journaliste très équilibré. Le Pays aussi est un journal très équilibré. Nous souhaitons donc que l'audition aboutisse à leur libération et nous en profitons aussi pour appeler les autorités tchadiennes à surtout permettre aux journalistes de faire leur travail sans crainte ni surtout représailles.
Un propos recueilli par François Mazet. Au Niger, la coordination des forces libres du Niger dément toute libération de Mahamoud Salah. président de l'une des organisations de cette coordination, le Front Patriotique de Libération. Il a été arrêté il y a 3 semaines en Libye par les forces du maréchal Haftar. Mahmoud Salah est toujours détenu à Benghazi, dit cette coordination des forces libres du Niger. Le Niger, où se rend en personne le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Raphaël Grossi est arrivé mardi à Niamey. Il a visité hier le site minier d'Arlit dans le nord, Claire Fage.
La dernière visite de l'Agence internationale de l'énergie atomique au Niger date d'octobre. Mais cette fois, le directeur général lui-même a fait le déplacement, ce qu'il n'avait encore jamais fait depuis sa prise de fonction il y a 5 ans. Dans un message sur X, lors de son arrivée à Niamey, Raphaël Mariano Grossi a remercié la ministre nigérienne de l'énergie, Hawa Amadou, pour son accueil chaleureux. L'AIEA est prête à soutenir le Niger dans la santé, l'énergie et l'environnement via la science et la technologie du nucléaire, a-t-il ajouté. L'une des principales missions de l'Agence internationale de l'énergie atomique et surtout de garantir la sécurité des matières radioactives et de leur utilisation. Raphaël Mariano Grossi a fait l'aller-retour à Arlit pour visiter en particulier la Somaïr, la dernière filiale en activité d'Orano au Niger, dont le groupe français dit avoir perdu le contrôle, aurait accumulé plus de 1400 tonnes de concentré d'uranium après que l'État du Niger, coactionnaire, a bloqué les exportations auparavant expédiées par le Bénin. Nul doute que ce stock a fait l'objet de discussions alors que les autorités de Niamey ont déjà évoqué de nouveaux partenariats russes, turcs ou iraniens pour écouler leur production de combustible nucléaire.
RFI, merci de votre fidélité sur le 90 FM. À Cotonou, la suite du procès dans l'affaire de la disparition de Pierre Urbain Daniveau en 2010. La deuxième journée d'audience hier, marquée par de longues heures d'audience avec des confrontations entre les accusés et des personnalités haut gradées de l'époque. Les experts ont également livré leurs résultats des tests d'ADN et d'autopsie. Jean-Luc Aplogan.
Les résultats des experts débouchent sur des conclusions plus ou moins similaires. Ils arrivent à 99,99% sur la personne présumée X, y compris les tests contradictoires demandés par la famille. Ils ont travaillé sur la dépouille retrouvée près du domicile du féticheur et présentée comme celle du syndicaliste disparu en 2010. Malgré ces résultats, maître Fifame Marc Zizinohwe, un des avocats de la partie civile, est encore réservé quand on lui demande si on peut dire maintenant que le corps découvert est celui de Urbain Daniveau.
En l'état, je ne peux pas l'affirmer.
Est-ce que Urbain Daniveau est mort?
Aujourd'hui, Pierre Urbain Daniveau a disparu. Nous n'avons aucun élément factuel qui nous permette d'identifier sa localisation.
L'autre temps fort de ce deuxième jour aura été les confrontations des hommes de l'ancien chef d'État, dont un ancien ministre, et un haut gradé des services spéciaux de la police ont fait face aux deux prévenus. Les accusés ont maintenu leur charge contre eux et répété qu'ils leur avaient demandé d'endosser l'assassinat contre de l'argent. Les personnalités ont rejeté les accusations. Il reste d'autres témoins, dont un colonel de la garde présidentielle à la retraite. C'est un dossier rocambolesque, commente un des avocats du féticheur. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et merci de nous écouter.